Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Bienvenue à la Conspiration des planches, l'émission critique des arts de la scène, comme chaque mercredi 19h-19h30 et en rediffusion le jeudi dès 13h30, la petite demi-heure pour épingler les spectacles qui ont lieu à Bruxelles sur 92.1 FM, Radio Campus, bien évidemment la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Alors aujourd'hui on va un peu en monde trouble. Alors j'ai à mes côtés Nicolas, bonjour, bonsoir.
Salut.
Et Olivier, à nouveau venu dans la bande, bonjour,
bonsoir
Olivier. Bonsoir. Aujourd'hui, à leur création, on ira du côté de Jean Genet avec le Black, l'Arabe et la Femme Blanche à l'Atelier 210, dernière création de Frédéric Dussène. On ira du côté du National avec Pomra, Ma Chambre Froide. On ira faire un tour à la Balsamine avec Ako Ona de Uyuko Watanabe. On ira faire un tour du côté des reprises Mal de mer au Marny et quelques annonces de bons spectacles qui ont lieu cette semaine. Mais là, je me retourne directement vers Nicolas qui, lui, est parti voir Genet, justement, Jean Genet par Frédéric Dussène.
Jean Genet, c'est pas la première fois qu'on le voit sur nos scènes, évidemment, auteur, torturé aussi, avec tous ses personnages en lui. Il a été enfant abandonné, pensionnaire de maison de redressement, déserteur, homosexuel, prostitué, travesti, voleur, prisonnier, défenseur des droits de l'homme également, des causes aussi, des Black Panthers, des Palestiniens, par exemple. Bref, c'est un personnage qui a toujours été un peu dans la marge, hein. c'est clair. Et c'est ce côté-là qu'a voulu explorer Frédéric Dussène, puisqu'il a voulu non pas faire un biopic, comme on dit au cinéma. Certes, il nous offre un bel aperçu de la vie de Jean Genet, mais il exprime Jean Genet au travers des textes de Jean Genet. C'est-à-dire qu'il a créé de ses petites mains un texte, vraiment un spectacle avec une espèce de puzzle de ses propres mains, mais également de textes, de différents textes, que ce soit des pièces, des poèmes, bref, pas mal de choses de l'auteur français. En fait, c'est un projet qui remonte à 2010, ou quand Genet aurait eu 100 ans. Mais finalement, il a été beaucoup plus loin. Il a beaucoup travaillé dans l'œuvre de Genet, puisqu'il devait au départ adapter une seule pièce. Et finalement, c'est à l'œuvre, il s'est replongé totalement dans l'œuvre complète de Jean Genet.
Justement, on le reconnaît bien là, parce que Frédéric Dussène est très rigoureux.
C'est un amoureux du texte, on le sait, je crois qu'il avait fait déjà la même chose avec Paul Willems, en tout cas un travail sur l'auteur. Et ici, il nous propose donc un objet théâtral autour de Genet. Comme je vous le disais, c'est une évocation chronologique, certes, de Jean Genet, mais pas linéaire. C'est-à-dire qu'on fonctionne par évocation d'épisodes de la vie de Jean Genet, et notamment les différents épisodes que j'ai évoqués, enfant abandonné, pensionnaire en maison de redressement, déserteur, découverte de son homosexualité également, voleur, prisonnier, bref, différents épisodes jusqu'à sa mort, quasiment. Alors, comment ça se passe sur scène? Comment évoquer ça? Il n'y a pas un Jean Genet. D'ailleurs, dans le titre, on le sent déjà, le Black, l'Arabe et la Femme Blanche. Ce qu'il veut évoquer, c'est différentes identités et différentes rencontres que Genet a fait dans sa vie.
Et amour.
Et amour, évidemment. Par différents épisodes. Donc on a du Jean Genet à l'âge mûr, avec Benoît van der Slaar notamment. Puis on a du Genet, on revient à l'âge plus jeune, avec d'autres comédiens, parce que ça bouge beaucoup. En fait, l'identité de Jean Genet passe à travers les différents personnages et sont évoqués sur la scène de l'Atelier 210. On est plongé dans un cube, comme ça, un cube blanc tout à fait immaculé, où les jeux de lumière s'alternent pour évoquer les différents épisodes et pour insuffler de l'émotion aussi dans les différentes images, parce qu'on joue beaucoup sur l'image, sur une iconographie aussi homoérotique, souvent également. Voilà.
Alors... Mais très sobre, hein, parce que fait, les gens se posent comme ça, les garçons se posent avec des positions un peu sensuelles, un peu images de mots comme ça, qui sont très belles.
C'est très beau, mais c'est très statique. Hein. On est dans la photographie, hein, comme on le disait tout à l'heure. Et justement, c'est marié alors à un texte très littéraire. C'est vraiment très écrit, avec très peu de théâtralité finalement. Et c'est ce qui est un petit peu dommage en fait. C'est que ce texte qui fait 1h45 environ, eh bien, est très beau, hein, littérairement beau, mais malheureusement très peu théâtral. Et donc, on s'enfonce dans des choses très ampoulées, avec des pauses, comme on disait tout à l'heure. Et quels que soient les épisodes qui sont évoqués, on ne ressent pas l'aspect révolutionnaire, l'aspect marginal, du moins pas assez, de ce qu'était Genet. Genet, c'était quand même une langue crue, notamment pour son époque. Et cette crudité, et crudité parfois du verbe de Genet, ne se retrouve pas dans le texte de Frédéric de Seine. C'est peut-être la déception de ce spectacle.
Mais parfois, il prend la parole de Genet qui casse la morale. Donc, c'est déjà Genet vieillissant qui introduit le spectacle. Hein, et par flashback, on va aller le revoir. Il se revoit et on voit le jeune garçon qu'il était, ses premiers rapproches homo. Il a cette parole en disant, bon, ici au spectacle, il n'y a pas de morale.
Il y a une espèce de mise en abîme, parce qu'il y a aussi cet aspect où les comédiens viennent, nous allons vous présenter donc une évocation de Jean Genet qui se passe, et aussi donc Jean Genet qui pose son regard sur lui-même. Et c'est ce que Frédéric de Seine explique dans sa note d'intention quand il a vu Genet, son évolution, c'est qu'au fur et à mesure, et notamment dans ses derniers combats, c'est-à-dire que Genet a toujours voulu chercher une famille, lui qui était un enfant abandonné, et il avait plus de recul puisqu'il a toujours été confronté à la jeunesse également, et il a été vieux parmi les jeunes finalement à la fin de sa vie, et donc avec évidemment un recul, même s'il se sentait empli dans la cause qu'il voulait défendre et défendue par des jeunes en Palestine ou aussi du côté des Black Panthers également.
Moi, je trouve que la meilleure partie du spectacle, c'est vers la fin, quand il y a ce discours avec la Palestine et avec la rencontre de l'Arabe. Mais ce qu'il y a, c'est que, comme tu disais, il y a un texte très littéraire qui empoule le texte, qui l'embourgeoise. Hein, on en parlait avant le spectacle. Mais est-ce que c'est aussi quand même une façon de découvrir Jean Genet, pour ceux qui ne le connaissent pas, de toute façon?
Certainement, mais... Enfin, j'avais découvert Jean Genet par Les Bonnes, notamment, qui était une pièce donc, où on sentait vraiment cette rugosité. Et je trouve que c'est dommage que ce texte vraiment trop ampoulé ne rend pas compte du ton Genet.
Justement, il y a en plus quelques parties un peu cage aux folles qui surprend Hitler en jartel ou pas?
Non, c'est non. Il y a des jartels, il y a des corsets, mais il y a une incursion d'Hitler dans une scène justement homo-érotique. On est dans le rêve, on est dans l'évocation, et c'est un peu parfois grotesque ou malsain. Je ne sais pas vraiment comment positionner par rapport à l'image qu'a voulu nous donner Frédéric de Seine de Genet, et en tout cas de ses évocations de sa vie.
Si c'est malsain, c'est réussi, parce que c'est justement montrer il n'y a pas de morale, on n'est pas dans des
jugements. Oui, mais j'hésite entre les deux,
Mais ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que c'était... On s'attendait à quelque chose de plus rugueux chez Genet, et on a quelque chose de plus esthétisant, avec un décor qui coince quand
même. Et qui est déjà assez lisse aussi. Oui, les comédiens sont vraiment coincés dans ce cube et n'en sortent quasi jamais.
Oui, qui est un plateau penché de biais. On dirait une espèce de haut-parleur, hein, d'entonnoir comme ça, de gueulante. Mais il y a une violence qui ne passe pas la rampe. Mais
voilà. Un petit mot sur la distribution. Benoît Van Dorslar, Jonathan Robert, Julie Leder, Rhoda Fawaz et Hippolyte Bouhou dans cette mise en scène et cette écriture de Frédéric de Seine, et une scénographie quand même, moi, je trouve, au niveau du jeu des lumières, qui était assez réussi, Vincent Lemaire et Renaud Kellemans.
Il y a une belle enveloppe. En plus, c'est pas n'importe qui. Vincent Lemaire et Renaud fait des bonnes lumières, mais à un moment donné, c'est tellement esthétisant et ça coince les comédiens.
Mais ça rajoute dans l'ampoule, quoi. J'allais dire, voilà. C'est à voir jusqu'au dimanche 6 mai. C'est au Rideau de Bruxelles, installé à l'atelier 210. Les réservations se font 02 737 16 01 ou www.rideaudebruxelles.com.
Donc le Black, l'Arabe et la Femme Blanche. Alors là, on va directement au Théâtre National voir Joël Pommerat, grand metteur en scène français, artiste associé du Théâtre National, qui reprend, hein, c'est pas une création, Olivier, donc il reprend Ma Chambre Froide.
Voilà, c'est une une pièce qu'il avait créée l'année dernière à Paris et qui avait eu un énorme succès. Et il reprend le même dispositif scénique qu'il nous avait présenté avec la pièce Le Cercle qu'on avait pu voir il y a 2 ans avec l'excellent Serge Ladirivière qui est de nouveau présent dans cette pièce-ci. Ma chambre froide raconte l'histoire d'une employée de magasin d'une grande surface, Estelle, qui est un peu la polyvalente et le souffre-douleur de tous ses collègues et de son patron. Et l'histoire prend forme jusqu'à ce que son patron apprenne qu'il est condamné par une tumeur. Et c'est l'élément déclencheur dans la pièce qui va servir de révélateur aux différents protagonistes et qui va leur permettre de se révéler, de révéler leur meilleur côté comme leur pire côté. Et c'est un peu là-dessus que va travailler Joël Pomera.
C'est sur la cruauté de la nature humaine ?
De nouveau, c'est sur la cruauté de la nature humaine. Voilà, dans un grand magasin qui a un microcosme mais qu'on peut appliquer à toute...
Et en fait, le gars, en crevant, il donne son entreprise et toute sa fortune qu'il a à ses employés.
Voilà, il lègue toutes ses entreprises, un abattoir, un magasin, une cimenterie et un bar à putes à ses employés, à condition qu'une fois par an, il lui consacre une journée à commémorer sa mémoire. Et Estelle, cette fidèle employée qui, malgré la grossièreté, le cynisme de ce patron, ne cesse de l'apprécier parce qu'elle pense que ce n'est pas lui qui est mauvais, mais ce sont ses pensées qui sont mauvaises. Donc elle pense que tout le monde peut changer, que chaque situation peut évoluer. Elle va proposer pour faire cette commémoration de créer une pièce de théâtre, ce qui va un peu stupéfier ses collègues, mais ils vont s'y mettre parce qu'ils sont sous la menace de leur patron qui... retirerait sa donation s'il ne faisait pas cette pièce de théâtre.
Et on voit au fil du temps, au fil de la pièce justement, que les ouvriers qu'ils étaient, patrons bricolés, vont être forcés eux-mêmes à virer et à éteindre les autres entreprises.
Ces braves petits ouvriers se révèlent de vrais capitalistes sans âme presque, puisque il y a notamment l'abattoir qui a des gros problèmes financiers et que la seule solution c'est de le fermer, c'est de le vendre et il faut licencier tout le monde, même si ils ont dans les employés des connaissances, de la famille, bien pour pouvoir conserver leur propre capital, ils sont obligés d'agir comme leur ancien patron. Mm-hmm. Donc ces ouvriers qui ont pensé de gentils petits ouvriers honnêtes se révèlent d'implacables capitalistes.
Et comment ça se passe sur scène, justement, pour montrer le supermarché, par exemple ?
Donc on a le même dispositif que dans la pièce Le Cercle, un dispositif en forme de cercle, justement, en forme d'arène. Et là, on a une position en tant que spectateur vraiment d'ausculter ce qui se passe dans la situation, dans les lieux. C'est une séquence, ce sont des scénettes très courtes qui alternent, un rythme très 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 rapide, entrecoupé de noir, voilà. L'esthétisme, c'est toujours la même manière de Pomera, donc c'est des lumières, c'est une grisaille permanente, une scénographie assez fascinante, enfin, qui est vraiment très
présente.
On ressent cette atmosphère.
Le jeu d'ombre également, parce qu'il a beaucoup joué aussi.
C'est ombre et lumière, on est vraiment dans des tonalités grises. Et ce qu'il y a, c'est qu'entrecoupé de noir, il y a une table, on voit un peu les coulisses du supermarché où ils fument leur clope, ils ont leur table. Et en 30 secondes, ça disparaît, on est dans
un simple élément permet de constituer tout un univers.
Est-ce que tu n'as pas eu l'impression que les surcouches, parce qu'il y a la couche du supermarché qui est concrète, et puis après il y a l'univers onirique, parce qu'Estelle fait des rêves.
Elle fait des rêves qu'il met en scène et qui permettent à Estelle de construire son propre théâtre. Elle est fan elle-même de théâtre. Là où il se repère un peu, c'est dans le double discours sur le théâtre. Donc la pièce aborde la crise économique de manière très simple et très efficace. Mais je pense qu'il cherche aussi à parler de ce qu'est le théâtre, de la vraie nature du théâtre. Et là, il se perd un peu, en tout cas, dans les propos d'Estelle.
Et alors, ici, il y avait de l'humour, quand même.
Oui, beaucoup d'humour, notamment par le jeu d'un comédien, Frédéric Laurent, qui appuie son accent bruxellois, qui la joue un peu à la galerie et qui fait que le public, à la première, en tout cas, était très réceptif à ce genre de...
Et justement, c'est une distribution belgo-française, donc il y a des comédiens belges, des comédiens français. Est-ce que l'humour t'a dérangé ou pas ?
Moi, pas du tout. Je suis vraiment rentré et resté concentré sur l'intrigue, parce que c'est une vraie intrigue, c'est un vrai film noir. Et cet humour, le rire des gens ne m'a pas dérangé, non.
C'est à voir
jusqu'à dimanche, jusqu'au 28 avril. C'est presque complet, il y a une liste d'attente, mais avec un peu de patience, je pense qu'il faut rentrer tout le monde chaque soir.
Il faut rentrer, oui. Oui. Alors, Olivier, toi qui as suivi un peu toute l'œuvre de Pommerat, comment tu le situes dans son parcours? Est-ce que c'est une grande, belle œuvre
Au niveau du texte, il y a une vraie simplification, plus d'efficacité par rapport à des pièces comme Au Monde et Les Marchands.
Il jouait beaucoup sur la voix off, justement.
Voilà, ici aussi, ça commence. Il y a une narratrice qui est une des collègues d'Estelle qui nous raconte l'histoire.
Il y a 10 ans se sont écoulés, donc on revient sur les événements.
Voilà, un procédé très peu utilisé au théâtre, finalement.
Oui. Et donc, par rapport à les autres œuvres, on a vu Cendrillon qui était le conte, c'est un peu une parenthèse, on va dire.
Je pense que c'est aussi un conte ici. C'est aussi un conte un peu plus social, mais avec du fantastique. Et c'est l'histoire d'Estelle qui croit en ses rêves, qui croit pouvoir changer le monde. Et bon, on ne va pas raconter toute l'histoire, mais il y a un côté conte fantastique.
Donc, c'est à voir jusqu'à
dimanche, le 28 avril.
Jusqu'au 28 avril, alors donc c'est un peu sold out, on va dire, mais voilà. Il y a des listes d'attente et on nous garantit finalement que les gens rentrent facilement. C'est une petite jauge, c'est la grande salle, mais on est tous en cercle et c'est vraiment impossible de sortir parce qu'il y a, c'est entrecoupé de noir et c'est très difficile pour les comédiens de rentrer et sortir. Et ça dure une deux heures.
Un peu plus de 2 heures.
Voilà. Donc Pommerat un peu drôle et qui nous emmène dans l'entreprise, on a l'impression d'être un supermarché, ça frôle parfois le glauque et la très belle poésie. Alors Pommerat fait des images magnifiques.
Oui, non, ça c'est indéniable.
La conspiration.
De retour dans la conspiration des planches.
Et oui, on va directement au théâtre de la Balsamine. Aujourd'hui c'est la première, Olivier l'a vue en général hier, donc juste avant la première. La pièce de Uiko Watanabe qui s'appelle... Ako Ona, Olivier.
Ou La femme dans la boîte, je me regarde, pour être exact. Et c'est la nouvelle création de Uiko Watanabe, dont on avait vu la trilogie au Théâtre des Tanneurs au mois de mars dernier, Food Story, où elle explorait déjà la notion du bonheur et la notion du plaisir. Et ici, elle reprend cette même thématique, mais de manière beaucoup plus... poétique, je vais dire.
Il y a beaucoup... Donc les trois précédents, c'était un peu spectaculaire. C'était les légumes, les gâteaux et les...
Et la dernière scène, oui, voilà, c'est ça. C'était presque anecdotique et folklorico-touristico-japonisant. Voilà. Ici, tous ces éléments ont disparu. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus construit, beaucoup plus poétique, beaucoup plus fort même.
Et Uiko Watanabe, c'est une comédienne, chorégraphe, danseuse, on ne sait pas très bien, qui est installée en Belgique depuis pas mal d'années. On la croit chez Armel Roussel, Sophie Coquage. Ouais. Et ici, c'est ses projets, elle. Alors ici, dans Ako Ona, on est dans de la danse, dans du spectacle.
On est dans la danse. Elle est accompagnée de 2 autres danseuses, d'origine japonaise également. Et elle nous présente pendant un peu plus de 50 minutes sa vision du bonheur. Alors le titre est inspiré d'un livre de Kobo Abe, Ako Otoko, qui signifie l'homme boîte.
C'est joli, voilà.
Voilà, et qui raconte l'histoire d'un homme qui décide de vivre dans une boîte et de regarder le monde à travers cette boîte. Et c'est le point de départ du spectacle de Uiko Watanabe. Elle se présente à nous dans une boîte en carton, à moitié cachée dans cette boîte en carton, et elle va explorer le plateau dans cette boîte en carton en nous regardant. Et notre regard va être intrigué par savoir ce qu'il y a sous cette boîte et ce qu'elle va faire de cette boîte. Et cette boîte va servir de révélateur à différentes choses.
Et les deux qui l'accompagnent dansent aussi en même temps qu'elle, ou bien c'est des prétextes, on va dire?
Non. Il y a des vrais moments de danse, c'est de la danse de pause, il y a des changements de rythme, il y a vraiment des moments de danse à trois.
Est-ce qu'elle joue avec un décor outre cette boîte, par exemple?
Non, le seul décor, ce sont quelques boîtes en carton qu'elles utilisent comme éléments de table, d'oreiller, de baignoire.
Très sobre.
Voilà, c'est très très sobre. À la japonaise, justement.
Mm-hmm. Ben oui, mais par rapport à ces 3 autres spectacles, à sa Food Story, tu sens une évolution?
Ah oui, vraiment beaucoup plus de maturité ici. Donc c'est plus construit, il y a un vrai propos, il y a une vraie dramaturgie, je vais dire, qui manquait parfois dans certaines pièces de sa Food Story.
Et justement le bonheur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est très rare en scène, hein, on nous montre les failles humaines, le monde qui va mal, enfin un peu de catharsis.
Voilà,
hein. Ici le bonheur, on le ressent?
Oui, on le ressent vraiment très très fort et elle l'explore par rapport à sa propre personnalité, mais aussi par rapport à la société dans laquelle elle vit. Et c'est quelque chose de très communicatif chez Uiko Watanabe, c'est quelque chose de très immédiat justement. Et donc après 50 minutes, on a la banane, on n'a qu'une envie, c'est de sourire et de dire qu'on est heureux.
Ça veut dire quoi? C'est un spectacle très lumineux? On n'est pas dans des lumières comme Pommerat, justement, dans le clair-obscur?
Non, il y a quelques petites pastilles un peu fantastiques, mais on est vraiment dans quelque chose de très positif, de rempli de douceur.
Et sans mots?
Sans mots. quelques musiques, Glenn Gould qui joue Bach, Brigitte Fontaine, mais il n'y a pas de parole, c'est vraiment de la danse.
C'est à voir ?
C'est à voir jusqu'au 28 avril au Théâtre de la Balsamine.
Ok, alors tu redis le titre, ça je te laisse le redire.
Ako Ona ou La femme dans la boîte, je me regarde, Wiko Watanabe, jusqu'au 28.
Au Théâtre de la Balsamine, moi je vous emmène au Marny pour une reprise. Alors le Marny reprend jusque fin de semaine, Mal de mer, un texte de Vinciane Mosler, qui est une écrivain franco-suisse installée en Belgique. C'est mis en scène par Michel Bernard et c'est un seul en scène joué par Micheline Goutals. On l'avait vu à la création il y a quelques années, un spectacle très perturbant parce que ça parle d'infanticide, donc c'est déjà toujours assez trash, hein, une femme qui dégomme son enfant. On est vraiment dans le monde troupe qui va un peu au-delà de l'entendement. Et surtout, la mise en scène sobre de Michel Bernard est très forte parce qu'on est au labo, donc c'est pour quelques spectateurs. Et il y a Micheline Goutals assise sur une chaise, spectaculaire parce que c'est entouré de morceaux de verre, de petits morceaux de verre. C'est très sombre, donc des fois ça prend la lumière et ça brille. Et elle est pieds nus là-dedans, on l'entoure et elle raconte son récit, elle raconte un peu sa vie, sans pathos, sans chercher d'excuses. On n'est pas dans un jugement de morale non plus. Elle raconte un peu tout ce fil de la vie, de son enfance mal aimée, d'un mari brutal, d'enfant... de maternité qu'elle n'a pas su gérer, de trop d'amour à ses enfants et d'un trip qui fait que tout doucement, elle en arrive à supprimer son nouveau-né. Donc c'est quelque chose de très sombre. On a vraiment du mal à décoller de ce clair-obscur, on va dire, très bizarre. Et c'est vraiment condensé en plus en 40-50 minutes. Et Micheline Goutals, c'est vraiment une performance de comédienne qui prend son texte, quand je l'ai vu il y a quelques années en tout cas. En plus, on l'avait vu à la première, donc il y avait la fragilité, ça s'est sûrement bonifié avec le temps. Elle est sur le fil, elle tient son texte, elle est incarnée ou habitée, comme on dit. En tout cas, c'est un texte très perturbant à voir cette semaine. Et Michel Bernard fait la semaine prochaine sa nouvelle création, Parking Song, et là c'est sur Kurt Cobain et la déchéance. Et donc on va voir, mais Michel Bernard fait des objets scéniques, on va dire, très sobres et très beaux, et un texte poignant, comme on dit, coup de poing, tout ce que vous voulez, c'est très fort, âme sensible, s'abstenir, et une vraie performance de comédienne, Mal de mer, c'est à voir. Donc jusqu'au 28 au Théâtre Marny, une très très bonne reprise. Autre reprise, un spectacle qui tourne énormément, c'est au KVS, alors ça s'appelle... À l'attente du Livre d'Or, on n'a pas eu l'occasion de voir, mais les échos sont très très bons. C'est une production belgo-congolaise. Hein. C'est, vous savez, les théâtres, on vous le dit, font des ateliers avec des pays étrangers. Ici,
et le KVS est très impliqué là-dedans.
Le Congo, voilà, c'est le Campo et le KVS. Campo, c'est un théâtre à Gand. Et c'est Johan de Hollander qui s'est attaqué à ce spectacle. Et c'est quoi ? C'est un live sur des clichés de nos pays, comment l'un voit l'autre et l'autre voit l'un, c'est sur le blanc et le noir. Alors on dit que c'est une comédie congolaise et une tragédie occidentale, ou vice versa, c'est en tout cas ce que dit le communiqué de presse. Ça joue évidemment sur les clichés européens et africains. Alors quand on voit une production avec des comédiens africains et belges, c'est toujours très envolé, chacun avec ses accents, chacun avec ses rythmes. Les photos sont très bigarrées, très colorées, et donc il y a quelque chose de très festif là. Et alors le Livre d'Or, apparemment, c'est une légende congolaise. Et on dit que ça contient la clé du bonheur et d'une bonne administration. Ça prend tout son sucre quand on voit comment l'administration africaine parfois se démerde. Donc c'est en l'attente du Livre d'Or, c'est à voir jusque cette semaine au KVS. Et c'est repris après au Théâtre de Langres. Les spectacles flamands vont parfois en Wallonie dans l'attente du Livre d'Or. Alors deux autres créations, deux autres reprises à vous épingler vite fait du côté de la danse. On y a au Hall de Scarpe, j'en oublie mes mots, Pierre Droulers, De l'air et du vent. Alors, De l'air et du vent, c'était un spectacle, c'est d'une chorégraphie qui a été créée en 96, qui a été reprise, je crois, l'année dernière, et qui tourne pas mal. On l'a croisé, nous, dans un festival au Maroc. Alors, De l'air et du vent, c'est une panoplie de danseurs. C'est un plateau nu, dans mon souvenir, je l'ai vu déjà en 96. Un plateau nu gris-bleu avec une chorégraphie de groupe abstraite, très fluide comme l'air et le vent. Je crois qu'il y a quelques tulles comme ça sur scène, et donc c'est vraiment le mouvement pur qui tente de toucher, allez savoir, l'air ou le vent ou les deux en même temps. En tout cas, c'est très très beau et très puissant. Autre spectacle quasi sold out, parce que je vais vous dire qui est dedans, c'est Anne-Thérèse de Kersmacher. Alors quand Anne-Thérèse est là, c'est quasi sold out. C'est Drumming, elle reprend une pièce de son répertoire de 1998. Drumming, qui est une partition de Steve Reich, il a fait un tour au Ghana, il a fait une partition pour percussion. Et là aussi, on est dans de la danse abstraite. C'est le même procédé que Phase. Donc elle prend un mouvement qu'elle va déployer, transformer tout le long du spectacle. Donc c'est vraiment un seul mouvement qui est pris par une équipée de danseurs et qui va se prolonger plus d'une heure durant avec des déphasages. Donc je reprends un mouvement, l'autre reprend le deuxième et finalement des fois ça revient sur lui-même. Et
une espèce de canon chorégraphique.
Et c'est l'abstraction et c'est vraiment le travail mathématicien d'Anne-Thérèse, là où elle excelle le mieux comme son chef-d'œuvre phase. Ça c'est à voir jusque dimanche à 15h. C'est en liste d'attente ou en dernier billet au CAI Théâtre, évidemment, organisé aussi par La Monnaie. Ainsi se termine la conspiration des planches, lentement et en douceur. Donc on va un peu récapituler. Et avait Jeûner moins sulfureux, qui a déçu Nicolas à l'atelier 210, mis en scène par Frédéric Dussène. Il y a Pomera un peu sold out, mais Pomera c'est un des grands metteurs en scène du moment, qui fait Ma chambre froide sur la cruauté en milieu ordinaire et notamment au milieu du travail. Il y avait Ako Ona ou La femme dans la boîte d'Oiko Watanabe, une pièce chorégraphique sur le bonheur, le bonheur sur scène. On est parti du côté de Mal de mer, un récit trouble sur l'infanticide. Les Congolais, les clichés, le Congo, l'Europe, l'Afrique, l'Europe, c'est à voir dans l'attente du livre d'or. Et enfin, les deux spectacles de danse contemporaine très abstraite, De l'air et du vent de Pierre Troulers et Drumming d'Anne-Thérèse de Kersmacher. On se quitte là-dessus. Bonne planche à tous. Rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Merci Nico, merci Olivier.
Salut à tous et n'oubliez pas le podcast de cette émission sur demandezleprogramme.be et dans le centre de ressources de la Bellone. Très belle semaine à vous. La conspiración.